VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du 6 avril 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promis hier de nommer dans les 48 heures le premier ministre de la transition.
Élections législatives aujourd'hui en Gambie, les premières depuis le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh.
Au Sénégal, pas de liberté provisoire pour Khalifa Sall, le maire de la capitale, Dakar, accusé de détournement de fonds publics.
Au Burkina, verdict attendu aujourd'hui au procès de soldats accusés d'avoir attaqué un dépôt d'armes en janvier 2016.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni hier en urgence sur l'attaque chimique en Syrie, a repoussé le vote d'une éventuelle résolution de condamnation.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Météco pour l'instant, le journal.
En RDC, le président Joseph Kabila a annoncé hier la nomination dans les 48 heures d'un nouveau premier ministre pour diriger la transition. Une décision qui, en l'absence de consensus, risque de plonger le pays dans une zone de turbulence. En annonçant la nouvelle au Parlement réuni en congrès, Monsieur Kabila a invité le Rassemblement, la coalition créée par l'opposant historique défunt Étienne Tshisekedi, à surmonter ses querelles intestines et à lui présenter une liste des candidats au poste de Premier ministre. Nous attendons que le président Kabila donne suite à la demande d'audience du président du Rassemblement pour discuter de la question du Premier ministre. C'est lui et sa majorité qui entretiennent la confusion, a ensuite commenté auprès de l'AFP Christophe Lutundula, un porte-parole du Rassemblement.
Les Gambiens retournent aux urnes aujourd'hui pour choisir leurs députés. Il s'agit des premières élections depuis le départ de Yahya Jammeh il y a 3 mois. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'Assemblée compte 58 sièges, dont 5 sont choisis par le président. Quelques 900 000 électeurs sont appelés à élire les 53 membres restants du Parlement, jusque-là dominés par les partisans de l'ex-président Yahya Jammeh. Pour la coalition qui a porté Adama Barrow au pouvoir, cette élection constitue une opportunité pour un réel changement au sein d'une institution auparavant perçue comme une simple chambre d'enregistrement. Beaucoup de Gambiens ont exprimé l'espoir d'avoir de nouveaux députés non subordonnés à l'exécutif. L'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, ancien parti au pouvoir, a des candidats dans 29 des 53 circonscriptions. Quant à la coalition qui a porté M. Barrow à la présidence, elle part en ordre dispersé, faute d'accord sur une liste unique. Mais cela ne l'empêche pas d'être optimiste qu'elle obtiendra une majorité qui lui permettrait de soutenir les actions du président Barrow. Si le paysage politique a beaucoup changé en quelques mois en Gambie, une spécificité locale demeure. Il s'agit du vote avec des billes à la place des bulletins et des bidons de couleurs différentes servant d'urne.
Au Sénégal, pas de liberté provisoire pour le maire de Dakar, la capitale. D'après un de ses avocats, la justice a rejeté la demande de Khalifa Sall, inculpé et écroué pour détournement de fonds publics. Des détails avec Morgane Guiriec.
Le juge d'instruction a rejeté la demande de liberté provisoire de Khalifa Sall, a affirmé un de ses avocats. Maître Seydou Diagne dit avoir par ailleurs fait appel de cette décision. Selon la justice sénégalaise, Khalifa Sall, maire de Dakar, doit répondre de dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros prélevées dans les caisses de sa mairie sur plusieurs années. Il nie toutes ces accusations, mais est depuis le 7 mars en détention préventive. Ses partisans imputent ses déboires judiciaires à son statut de dissident du PS. Khalifa Sall a présenté à Dakar une liste dissidente, victorieuse aux élections locales de 2014. Il a ensuite appelé à voter non au référendum du 20 mars 2016. Il a annoncé une liste distincte de celle de la majorité aux élections législatives prévues le 30 juillet et il est considéré comme un probable candidat à l'élection de 2019 contre le président Macky Sall.
Au Burkina, le tribunal militaire de Ouagadougou rend aujourd'hui son verdict dans le procès d'une vingtaine de soldats accusés d'avoir attaqué un dépôt d'armes en janvier 2016. Azuma Compaoré.
La lecture de la délibération intervient ce matin, a annoncé le tribunal militaire. Mardi, le parquet avait requis des peines allant de 2 à 20 ans de prison à l'encontre des accusés, dont une dizaine, des membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Selon le parquet, les accusés, arrêtés en mars 2016, comptaient utiliser les armes volées dans un dépôt pour libérer de prison les généraux Gilbert Diendéré, l'ex-chef du RSP, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, de même que d'autres militaires incarcérés pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015 contre le gouvernement de transition. Le RSP a été dissous et à la mi-janvier, 19 membres de cet ancien corps d'élite ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison ferme.
Au Nigeria, un magistrat a été relaxé hier dans une affaire de corruption. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments à charge. C'est un coup dur pour le président Muhammadu Buhari et sa lutte contre la corruption, John Lyndon.
Un tribunal d'Abuja a estimé que les accusations sont hautement hypothétiques et, comme le réclamait la défense, a ordonné l'abandon des poursuites. Le juge Adeniyi Ademola, son épouse Tolulope Olabowale ont été relaxés des 18 chefs d'accusation. Ils étaient accusés d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent et des cadeaux pour influer sur des décisions de justice. Le parquet avait affirmé avoir trouvé 92 000 euros sur le compte bancaire de Madame Olabowale et que son fils avait reçu une BMW en cadeau. Les enquêteurs avaient également trouvé d'importantes sommes en devises étrangères au domicile du juge et deux armes à feu non déclarées. Le juge Ademola fait partie des 7 juges arrêtés en octobre dernier par les services secrets nigérians. Ces arrestations avaient provoqué de vives indignations dans le pays. Le PDP, l'ancien parti au pouvoir, accuse le président Muhammadu Buhari de faire une chasse aux sorcières sous prétexte de lutte contre la corruption, ne visant que des personnalités de l'ancien régime.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a reçu hier le soutien implicite de son parti, qui a appelé à l'unité pour calmer les divisions internes agitant le Congrès national africain depuis un remaniement ministériel controversé.
Au Maroc, un nouveau gouvernement dirigé par Saad Eddine El Othmani a été nommé hier avec une montée en puissance de libéraux ayant la confiance du palais et la marginalisation des islamistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé le vote d'une éventuelle résolution de condamnation, le temps pour les Occidentaux de négocier avec la Russie qui appuie Damas, et Damas qui est accusé de l'attaque chimique présumée contre Khan Cheikhoun en Syrie. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ce texte présenté par Washington, Paris et Londres pourrait cependant être voté dès jeudi, selon des diplomates à l'ONU. Le Conseil s'est réuni hier en urgence après l'attaque qui a fait 86 morts, dont 30 enfants et 20 femmes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Moscou avait jugé inacceptable en l'état le projet de résolution, une nouvelle illustration des divisions entre Occidentaux et Moscou sur le dossier syrien. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a affirmé que son attitude vis-à-vis du Syrien Bachar al-Assad avait changé et il a qualifié l'attaque d'affront à l'humanité. Sa représentante à l'ONU, Nikki Haley, avait prévenu auparavant que les États-Unis prendraient des mesures unilatérales en Syrie si l'ONU ne parvenait pas à répondre de manière collective à l'attaque. Brandissant des photos qu'elle a présentées comme étant celles de victimes, dont des enfants, Nikki Haley avait aussi fustigé la Russie pour n'avoir pas su tempérer son allié syrien. Elle a encore demandé à Moscou de mettre un terme à ces actes atroces. Regardez ces photos, a demandé Mme Haley. De son côté, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a demandé hier soir à la Russie de bien réfléchir à son soutien au régime syrien.
Le président chinois Xi Jinping arrive aujourd'hui en Floride pour un tête-à-tête avec son homologue Donald Trump à Mar-a-Lago, la résidence privée du président américain à West Palm Beach. La Corée du Nord sera au centre des discussions. Peu d'éléments ont cependant filtré sur le programme exact de cette rencontre, si ce n'est que les présidents des deux premières puissances économiques mondiales doivent dîner ensemble jeudi, après l'arrivée de M. Xi Jinping, dans l'après-midi, et avoir une série d'entretiens vendredi.
En France, Emmanuel Macron du mouvement En Marche et Marine Le Pen du Front National sont au coude à coude dans les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle avec 23,5% des voix. François Fillon du Parti des Républicains a gagné un point en une semaine à 19%, mais il est talonné par Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, qui poursuit sa hausse et gagne 2 points à 17%. C'est ce qui ressort d'un sondage publié hier soir. Au second tour, Marine Le Pen serait devancée tant par Emmanuel Macron que par François Fillon. Fin de ce journal sur VO Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco. Jacques Aristide.
L'économie nigériane a besoin de réformes urgentes. C'est le Fonds monétaire international qui le dit dans un rapport publié hier et qui met en exergue les dangers auxquels est confronté le Nigeria face à la récession et au marché de change volatile. Le FMI estime que les carences actuelles pourraient affecter les négociations pour des prêts internationaux d'au moins 1,4 milliard de dollars que cherche le gouvernement d'Abuja. Le Trésor public sud-africain annonce le départ de son directeur général, Longisa Fuzile, de son plein gré un an avant la fin de son contrat. Ces derniers jours, il s'est attelé à transmettre des dossiers au nouveau ministre des Finances, Malusi Kigaba. Le départ de Fuzile intervient après le récent limogeage de son ancien patron, Pravin Gordhan, dans le cadre d'un remaniement ministériel controversé en Afrique du Sud. L'Égypte vient de signer un nouveau contrat de plusieurs milliards de dollars avec le Koweït, qui va lui fournir pendant 3 ans du brut et des produits pétroliers. Un précédent contrat paraphé après la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi a expiré en décembre. Le Koweït a été l'un des pays arabes du Golfe à avoir apporté une aide financière massive à l'Égypte après l'éviction de Morsi.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le nouveau président de la Confédération africaine s'exprime en exclusivité sur VO Afrique, une première depuis son élection.
Oui, le malgache Ahmad se confie sur notre antenne avant son déplacement demain en Afrique du Sud pour rencontrer les dirigeants de la COSAFA, le football de l'Afrique australe. Ahmad reste toujours bienveillant avec son prédécesseur Issa Hayatou, avec lequel il n'a pas eu de contact depuis l'élection. Le dirigeant malgache affirme à VOA qu'il va réintroduire une limite d'âge et une limitation à 2 du nombre de mandats pour le poste de président de la CAF. Le président Ahmad confirme aussi que l'Afrique aura bien 9 places lors de la Coupe du Monde 2026, et même peut-être 10, puisqu'une équipe africaine jouera un match de barrage face à une équipe d'une autre confédération pour décrocher son ticket pour la Coupe du Monde. Voici sa position à présent concernant le changement de calendrier pour la CAN.
La différence, c'est que lorsqu'on est responsable, on ne doit pas toujours agir par rapport à votre personne. Il faut agir par rapport au groupe, par rapport à ce qui est bien pour le continent. Moi, je ne pose même pas de question si la majorité, si les paramètres sont pour le déplacement des dates, pour l'augmentation du nombre, pour le changement de format. Je m'arrange là-dessus. Il y a des débats là-dessus, sur le calendrier, parce que même en Afrique aussi, les gens, certaines personnes disent que c'est la saison de pluie. Par exemple, au sud, c'est la saison de pluie au mois de janvier. Vous jouez par exemple à Madagascar une compétition en plein janvier ou février. Vous ne pouvez pas, c'est catastrophique. Il y a de l'averse, il y a des pluies torrentielles tout le temps. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres parties de l'Afrique. Donc il faut voir tout ça. Il ne faut pas se cantonner pour des arguments. Je peux dire qu'il faut évoluer. Voilà.
Voilà, c'était le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad. Une interview à retrouver en intégralité sur voaafrique.com.
Les footballeurs gabonais en colère.
Oui, le Gabon, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, détient un triste record mondial. Selon le dernier rapport de la FIFPro publié en novembre dernier, près de 96% des footballeurs évoluant dans ce pays d'Afrique centrale ont connu des retards de salaire. C'est de l'esclavage, a même déclaré Rémi Ebanega, le président du syndicat des joueurs gabonais et ancien défenseur des Panthères, alors que 62% des joueurs locaux ne possèdent pas de copie de leur contrat, selon cette même étude.
Le président de l'UEFA tape du poing sur la table.
Oui, Alexander Seferin a prévenu qu'il n'y aura pas de ligue fermée européenne regroupant les grands clubs. Déclaration faite hier lors du 41e congrès de l'instance à Helsinki, affirmant que l'UEFA ne cédera jamais au chantage de certains clubs et de ligues porteurs de ce projet. Allez Idrissa, enfin avec vous, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Miami et Charlotte, 112-99. Toronto et Détroit, 105-102. Oklahoma City et Memphis, 103-100. Denver et Houston, 104-110. Cleveland et Boston, 114-91. Los Angeles Lakers et San Antonio Spurs, 102-95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, une vidéo circule sur les réseaux sociaux et montre des Imbonerakure, jeunesse du parti au pouvoir, entonnant un chant qui incite au viol des filles et femmes qui s'opposent au régime de Bujumbura. Cette vidéo a été énergiquement condamnée par la secrétaire nationale chargée de la communication, Nancy Ninette Mutoni. De Bujumbura, Christophe Kurunziza.
La vidéo authentifiée fait état des jeunes du parti Imbonerakure venus des différentes communes de la province de Kirundo au nord-est du Burundi pour se souhaiter les meilleurs vœux. Mais entre-temps, en t-shirt bleu et rouge, ces jeunes ont commencé à entonner des chants qui invitent les membres du parti présidentiel à violer les femmes et jeunes filles de l'opposition pour qu'elles mettent au monde d'autres Imbonerakure, ceux qui voient loin en français, proches du pouvoir. Pour la chargée de l'information et de la communication du parti CNDD-FDD, la chanson n'en concorde pas avec l'idéologie et les mœurs du parti. Nancy Ninette Mutoni.
C'est une vidéo qui est de mauvais goût, qui circulait sur les réseaux sociaux. C'est dans notre responsabilité de condamner une vidéo véhiculant de tels messages, vu que ces messages sont contre les enseignements et les idéaux que prêche notre parti, et c'est contraire à l'idéologie du CNDD-FDD. Donc, nous devons condamner avec notre dernière énergie cet écart de langage, car après des enquêtes préliminaires, il a été prouvé que il y a une récupération politicienne de cette vidéo. Chaque fois qu'il y aura des messages contraires à l'idéologie, chaque fois qu'il y aura des messages non conformes, même aux mœurs et aux cultures burundaises, nous allons condamner cela. Surtout, les jeunes de notre parti doivent être exemplaires.
Mais pour le président du parti Parena, parti pour le redressement national de feu président Jean-Baptiste Bagaza, l'avenir s'annonce radieux quand le parti au pouvoir commence à condamner de tels agissements. Zeno Nichayenzi.
Ceux qui prônent la violence doivent être condamnés, même par le parti au pouvoir. Pour ce qui est des mauvaises attitudes, tout le monde doit parler le même langage, ceux de l'opposition comme ceux du pouvoir, et à plus forte raison ceux du pouvoir, parce que eux, ils ont mandat d'administrer correctement la population. J'acclame le geste, et c'est à répéter avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être il est débordé, comme d'autres l'ont été avant eux. Je pense au parti qui était au pouvoir dans les années 70 et au parti qui était au pouvoir dans les années 90-13, et eux aussi ils ont été débordés. Ça m'étonnerait que ça ne soit pas le cas, même pour ceux d'aujourd'hui.
Pour les membres de l'opposition, les autorités politiques locales ont perdu partiellement le contrôle de ces jeunes qui sont souvent cités dans différentes violences armées sur les monts et vallées du Burundi profond. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Crise politique au Bénin après le refus du Parlement d'examiner le projet de révision de la Constitution mardi dernier porté par le président Patrice Talon. Maintenant, quelle perspective politique, quel impact sur les futures décisions de Patrice Talon pour un éclairage? Claire Morin-Gibourg rejoint le politologue Mathias Unkpe.
Il y a, de mon point de vue, deux possibilités. Le président de la République peut décider, n'est-ce pas, de reprendre le texte et de l'améliorer et de réintroduire. Et disons que le règlement intérieur et les tests en vigueur permettent au président de faire cela, donc de ramener le texte après l'avoir amélioré. Mais il est aussi possible pour des députés, peut-être des députés de la mouvance présidentielle, de reprendre le texte à leur compte et donc d'y travailler et cette fois-ci de le présenter comme une proposition de loi que le Parlement ou des députés vont porter.
Est-ce que le président Patrice Talon a moins de marge de manœuvre politique, selon vous, maintenant?
Non, pas nécessairement, parce que l'un des principaux objectifs qu'il visait à travers la révision, c'était pour diminuer ce qu'il a considéré comme la superpuissance du chef de l'État sur les institutions de la République. Et donc, de ce point de vue, le fait de ne pas opérer cette révision constitutionnelle lui maintient tous les pouvoirs qu'il avait et qu'il trouvait exorbitants par rapport aux institutions de l'État. Mais ceci dit, il a quand même reçu un coup politique parce que, disons que la fragilité de son pouvoir a été révélée à travers ce vote. Il est venu au pouvoir avec une large majorité et avec une sorte de plébiscite, je vais dire en griffe, des citoyens. Et donc c'est la première fois que le Parlement lui refuse un vote. Et pour moi, c'est un coup politique pour lui, même si dans sa marge de manœuvre en tant que président, ça ne lui enlève rien.
Comment cela va-t-il influencer sa politique, ses prochaines décisions politiques, selon vous?
Non, de mon point de vue, normalement, il peut continuer à gérer le pays parce qu'il a normalement tous les pouvoirs qu'il faut pour gérer le Bénin. Et donc, il aura peut-être le regret de n'avoir pas conduit les réformes politiques comme il avait souhaité jusqu'à terme. Du moins pas pour le moment, mais à part cela, je crois que cela ne devrait pas être un obstacle pour lui dans la gestion du pays. Mais c'est peut-être le début d'une fronde politique que tout le monde attendait depuis longtemps, qui s'est réalisée le mardi soir, de mon point de vue, constitue peut-être le début des difficultés politiques pour le président Talon. Parce que jusque-là, il a bénéficié, n'est-ce pas, d'une situation de lune de miel, pratiquement, où il n'y avait pas d'opposition déclarée à son encontre. Et donc, je pense que politiquement, il doit faire preuve d'un peu plus de manœuvre à partir de maintenant.
Le politologue Mathias Ungpe de l'Initiative Ouest-Africaine pour les sociétés ouvertes. Michael Zodi, coordonnateur de la campagne Tournons la page Niger, a été arrêté à son domicile hier mercredi. Il est accusé de concussion. Solange Niamoulissa a joint Issa Garba, secrétaire à l'information de la campagne Tournons la page internationale Niger.
Michael Zodi, qui est le coordonnateur national de la campagne Tournons la page Niger, est actuellement détenu dans les locaux de la police judiciaire.
Qu'est-ce qu'on lui reproche?
Il n'y a qu'une seule charge qui a été retenue contre lui, qu'ils ont dit qu'ils ont qualifié de concussion. Ils pensent que Michael a indûment perçu des salaires alors qu'il n'a pas travaillé.
Michael Zodi fait partie des signataires de la plainte contre X déposée par la société civile nigérienne le 31 mars 2017 dans le scandale de l'Uranium Gate. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces scandales?
En réalité, c'est ça même la machination, sa démission à la CENI que le pouvoir n'arrive pas à faire passer à travers la gorge. Et il y a la plainte que récemment que nous avons déposée au niveau du doyen des juges du tribunal hors classe de Niamey par rapport à ces 200 milliards qui est une affaire que nous appelons Uranium Gate, impliquant des hautes personnalités de ce régime-là. C'est vraiment un trading illégal qui a été fait entre le Niger à travers la Sopamine et la France à travers Areva, où il y a eu une vente circulaire d'uranium qui s'est passée entre le Niger et la Russie, avec même des Arabes où on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont faire réellement avec cet uranium dans cette période de terrorisme-là. En fait, c'est sur ça que nous avons déposé une plainte. En dehors de ça, nous avons recensé encore 40 autres affaires que nous avons l'intention encore de porter plainte, 40 autres affaires, et nous avons lancé une pétition nationale pour amener les Nigériens à signer cette pétition pour que nous puissions encore déposer plainte au niveau de la justice par rapport à ces 40 affaires. Et dans ces 40 affaires, vous avez l'affaire des permis de pétrole de Savannah, qui est une société anglaise à qui on a octroyé des permis, et la somme que Savannah a déclaré avoir versée pour l'État du Niger, ce n'est pas ce que l'État du Niger a versé, parce qu'il y a environ 3 milliards qui manquent dans le versement de la Savannah. Donc tout ça, nous avons demandé à ce que vraiment justice soit faite pour que nous puissions voir clair par rapport à ce dossier. Savannah a dit avoir déposé tel milliard et vous, vous dites avoir déposé tel milliard. Donc il est important que la différence, pour que nous puissions savoir là où est rentrée la différence. Donc tout ça, là, ça fait partie des dossiers que nous avons soulevés. Donc Mekoul est au devant aussi de toutes ces actions-là. Et ils pensent que c'est à travers cette fausse concussion qu'eux-mêmes ont fomenté et de façon illégale et arbitraire pour pouvoir le soustraire parmi nous, et pensant que c'est ça qui va ralentir nos activités, c'est ça qui va ralentir vraiment notre élan à amener la justice à faire véritablement son travail.
Issa Garba, secrétaire à l'information de la campagne Tournons la page internationale Niger. Marche à Bamako du collectif des syndicats de l'éducation signataire de l'accord du 15 octobre 2016. Les enseignants demandent un statut autonome. Les autres points de revendication sont relatifs à la grille salariale et autres avantages qui devaient être discutés au sein d'une commission. Mais le gouvernement est revenu sur sa décision. De Bamako, Kassim Traoré.
Inchallah, inchallah. Cette grande marche des enseignants est partie du monument de l'indépendance en passant par le centre-ville pour s'achever devant le ministère de la fonction publique et du travail. Yacouba Diallo, porte-parole des enseignants.
Le refus manifeste du gouvernement de mettre en œuvre l'accord du 8 janvier 2017, le non-respect par le gouvernement de ses propres engagements. À l'issue des négociations tenues le 3 et le 8 janvier 2017, un accord a été conclu le 8 janvier 2017, certifié par le procès verbal de conciliation sur l'ensemble des points de préavis déposés le 22 décembre 2016. Dans le procès verbal, il est bien écrit noir sur blanc. L'État s'engage à donner un statut aux enseignants. Aucun affaire dans la grille ne sera occultée lors des travaux de la commission qui sera mise en place à cet effet au plus tard le 31 janvier 2017.
Sur les pancartes des marcheurs, on pouvait lire le statut autonome des enseignants, plus de justice, de respect de la liberté syndicale au Mali.
Pour notre droit, pour l'application de l'accord de conflit en janvier 2017.
Nous allons porter en grève les 10 pour 10 jours. Pour 10 jours, ça commence à partir du 10, lundi prochain. Le point de blocage, c'est le statut autonome. Il nous refuse de mettre en application ce qu'on est convenu le 8 janvier passé.
Les enseignants tiennent au respect du contenu de l'accord qu'ils ont signé avec le gouvernement. Ils veulent que le gouvernement mette fin au dialogue des sourds.
D'abord, c'est la cause de la marche qu'il faut noter. On a maintes fois réclamé l'application du PV. On a constaté que le gouvernement fait la sourde oreille. Donc c'est raison pour laquelle nous avons décidé de marcher aujourd'hui. Et comme tu vois, la marche, ça a été une réussite parfaite. Donc ce sont là mes expressions. Ça a été une marche très réussie. Bon, ici, ça c'est Bamako seulement. Il y a les régions. Toutes les régions du Mali, c'est la même.
Au terme de leur marche, une déclaration contenant les rappels des points de revendication a été remise au chef de cabinet du ministre de la fonction publique et du travail. Yacouba Diallo, porte-parole des marcheurs.
Au regard de tout ce que précède, nous, Sénégal signataire du 15 octobre 2016, venant par la présente déclaration prendre à témoin l'opinion nationale, internationale et partenaire de l'école malienne de la volonté affirmée du gouvernement à violer les textes qui régissent le dialogue social actif à l'exercice du droit de grève dans les services publics, notamment à son article 8 qui stimule que les accords qui interviennent sur l'application sans soumission contraire à compter du jour qui suit la signature par les partis et de son refus catégorique de mettre en œuvre le projet verbal du 8 janvier 2017.
Comme à Bamako, des marches similaires des enseignants ont été organisés à Kaye, Ségou et Sikasso. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, premier sommet entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, ce jeudi en Floride. Précision de Lionel Gahima.
Les discussions seront plus difficiles dans la mesure où les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'avoir un déficit commercial massif et des pertes d'emplois au profit de la Chine, a prédit le chef de l'exécutif américain dans un message sur Twitter. Lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec des dirigeants du secteur manufacturier, le président Trump leur a dit qu'ils trouveront sa rencontre en Floride avec le président Xi Jinping intéressante.
I look very much forward to meeting him in the delegation. And we'll see what happens.
Je suis très impatient de le rencontrer avec sa délégation et nous verrons ce qui va arriver. Le chef de l'État chinois n'arrivera pas les mains vides, estime Yun Sun, chercheur au Stimson Center de Washington.
Je pense que les Chinois enverront Xi ici avec un énorme et généreux cadeau en termes d'investissement dans les infrastructures ici aux États-Unis pour aider le président Trump à créer les emplois qu'il avait promis aux électeurs.
Certains experts comme Scott Kennedy du Centre d'études stratégiques internationales mettent en garde contre un trop grand optimisme.
Something crazy could happen, unexpected.
Quelque chose de fou, d'inattendu pourrait arriver. Vous savez, un seul tweet pourrait changer la trajectoire de leur rencontre dans une certaine mesure. Mais à mon avis, il y aura beaucoup de plaintes sans réelle négociation. Et puis, les Chinois vont quitter nerveux, anxieux. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, est revenu sur les grands problèmes entre les États-Unis et la Chine. Tout, de la mer de Chine méridionale à la Corée du Nord, en passant par le commerce. Des grandes questions nationales et économiques ont besoin d'être discutées. Il y aura beaucoup de choses sur la table pour les deux jours du sommet. Le président Trump a tenu des propos contradictoires concernant une seule Chine prônée par Pékin sur le statut de Taïwan. Aucun doute que les discussions seront suivies de très près ici aux États-Unis et de l'autre côté du Pacifique.
Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.